Jorge Valadas. Avant tout, bonjour, boa tarde et merci d'être parmi nous.
Bonjour, peut-être encore bon dia,
non sei. Já é tarde. Bon, Jorge Valadas, Itinéraire du refus, Chandaigne et Lima. Alors, on peut dire que c'est le livre le plus personnel que vous avez écrit, parce que je me souviens encore, on avait parlé de vos anciens ouvrages. Bon, je parle par exemple Le Tigre de Papier, Spartacus 1972, signé Charles Rive. Après La Mémoire et le Feu, Portugal Invert du décor de Roland, China Blues, etc. Le Socialisme Sauvage et l'Échappée 2018. Mais enfin, alors ce livre, c'est un genre, c'est quoi? C'est autofiction, c'est une autobiographie, mais en même temps, disons, on a regard sur certain nombre d'événements très importants qui sont passés un peu partout sur la planète depuis les années 50.
Ben, je crois que c'est un voyage dans ma mémoire avant tout, quoi. Forcément, il y a des passages qui peuvent être un peu de la fiction, parce que quand on visite la mémoire, la fiction s'y invite aussi toujours. Et après, c'est un parcours sur une époque, je pense. C'est un parcours sur une époque, évidemment avec un fil conducteur qui est celui du lien, du rapport difficile que j'ai eu avec mon père, que finalement a fini par se régler, heureusement pour moi et pour lui. Et ce fil rouge qui traverse tout le livre, oui, forcément, oui. Il est lié à la société portugaise, parce que je suis né à Lisbonne en 1945, et j'ai vécu une partie de ma vie, de mon existence au Portugal.
Le fascisme.
Oui, tardif, quoi. C'était vraiment le salazarisme tardif. Et donc, je pense que dans ce livre, il y a aussi un écho de la société portugaise de l'époque, quoi. Mmh. Ce qui est, bon, évidemment, il y a d'autres gens. Moi, je ne suis pas un écrivain. J'ai écrit des essais sous des pseudonymes, comme tu l'as mentionné. Mais là, c'est plus personnel, c'est très subjectif. Bon, c'est une aventure pour moi aussi, parce que je m'expose et j'expose ma vie. Et donc, mais au-delà de ça, j'aime espérer qu'il peut donner aussi des images sur la société portugaise d'une époque que nous avons vécue.
Oui, tout à fait. Donc, le narrateur, à savoir Georges, raconte sa vie, son enfance, son adolescence, l'apprentissage, la vie chez Salazar. Alors, et quelque chose qui existait à l'époque, même au sein des familles, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient tabous. Alors, il y a quelque chose qui apparaît au début du livre et après à la fin, bon, mais on a le temps d'y arriver, c'est la peur. La peur, c'est-à-dire on sentait une peur, la religion, parce que quand on parle, on va en enfer, etc., etc., c'est quelque chose que ça vous a travaillé, ça vous a, disons, empêché de réfléchir normalement, mais en même temps, ça a suscité une révolte de votre part.
Oui, c'est vrai. La peur, c'était, je pense, un élément de ce type de société. Je pense pas que le Portugal est une exception. Mais il y avait aussi un autre élément. L'autre jour, une amie m'a fait remarquer ça. Et ça, je pense peut-être que j'ai réussi à le faire passer un peu dans mon témoignage. C'était le silence. C'était une société très silencieuse. Évidemment, il y a un lien entre les deux, la peur et le silence. La peur était politique, évidemment. Moi, quand on était gamin, on le voyait pas du tout de suite comme ça, parce que la politique, c'était quoi, etc. On le voyait pas, on cernait pas très bien tout ça. Mais c'était aussi une peur qui était structurée autour de valeurs, dont les valeurs religieuses. Enfin, moi, je suis né dans une famille qui était, disons, à moitié religieuse. Mon père était assez bigot, même. Ma mère, qui était pourtant d'origine très pauvre du nord du Portugal, elle avait une religiosité, mais elle n'était pas particulièrement religieuse. Mais bon, voilà, j'ai vécu quand même dans tout ça. J'ai beaucoup vécu. J'ai eu peut-être la chance ou le malheur de vivre un certain nombre d'années à côté de Fatima, donc dans les années 50. Ça m'a beaucoup marqué. Pas simplement Fatima, mais la question, toute la question sociale que je voyais autour de Fatima, parce
la
que
la misère, etc.
La misère et les gens qui traversaient tout le pays sur les genoux pour parce qu'ils avaient promis à Sainte Vierge de venir à pied ou sur les genoux jusqu'à Fatima. On a tendance à oublier ça parce qu'aujourd'hui on vit un autobus. Je suppose, j'y vais plus. Mais à l'époque, il y avait des gens du peuple qui traversaient tout le pays sur les genoux pour arriver jusqu'à Fatima. Et j'ai vu ça et ça m'a beaucoup marqué.
Justement, on va arriver à la religion et après, bon, on va dépasser un petit peu. Ce qui est une révolte. À un moment donné, à l'école, parce qu'on avait la discipline de religion immorale, moi je disais immoral, donc je rajoutais un i, etc. Là, il y a une révolte. Une révolte contre la foi à l'école. Attention les dégâts. Parce que là, vraiment, vous avez eu des problèmes, mais là, vous avez réussi quelque chose. Cette révolte-là, finalement, elle a résulté en quelque chose de positif pour vous. Et je mets au même niveau que cette révolte contre la religion, quand vous marmonnez l'hymne national. Alors là, vous avez eu le droit à certain nombre de choses, des remontades, mais plus que des remontades, votre père est même allé à l'école dire à la prof, vous touchez plus mon fils. Dès le départ, vous aviez un sentiment de révolte, quelque chose que vous disiez, non, ça c'est pas bon. Pourquoi ? Je peux pas encore l'expliquer, mais plus tard, je comprendrai pourquoi. Donc, dès votre pré-adolescence, vous aviez ce sentiment-là de révolte contre quelque chose, vous disiez, c'est pas juste.
Oui, c'est vrai. Je crois que c'est un sentiment qui m'a guidé dans la construction de ma vie. Mmh. Mais là, du coup, tu abordes une question dans laquelle on va faire réintroduire ce personnage qui fait partie du fil conducteur de mon livre, qui est mon père, qui était un individu. Bon, tout ce que je raconte là, parfois je me dis, mais finalement c'est assez banal parce que des milliers de personnes l'ont vécu. Bon. Moi, je le raconte. Bon, chacun prendra comme il voudra. Mais mon père était un bonhomme assez qui avait une éthique personnelle et une morale très forte, même s'il était aussi par ailleurs un admirateur du dictateur Salazar. Et le fait qu'il avait déjà cette construction éthique, ça m'a aidé dans la construction de ma propre révolte, parce que évidemment en tant que gamin tu vois toutes ces choses là tu trouves ça un peu curieux, un peu contradictoire. Pourquoi Dieu qui fait du bien aux gens, qui est censé être la bonté même, pourquoi les gens ont besoin de souffrir pour lui faire plaisir, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi il y a des injustices? Et dans tout ce cheminement, en tant que gamin, j'ai eu des repères qui étaient sœurs de mon père, en fait. Et l'histoire que tu viens de mentionner, à l'école primaire, il fallait chanter l'hymne national, voilà. Et puis aussi des chansons religieuses, etc., ou des prières, je fais pas la différence entre les deux. Ça me gavait. En tant que gamin, j'étais peut-être déjà trop rebelle, puis j'avais envie d'autre chose. Et puis j'ai été battu à cause de ça à l'école un jour, chose qui n'est pas du tout originale. Hein, et ça s'est produit partout, on voit encore aujourd'hui, avec l'affaire de Notre-Dame de Bétharram. Mais donc, c'est pas particulier au Portugal, mais mon père a très mal réagi à ça. Et donc, il m'a amené avec lui à l'école, devant la prof, pour engueuler la prof, ce qui était quand même, à l'époque, au Portugal, un acte un peu de courage.
Alors, et la prof, et c'est depuis... Bon, vous avez continué à marmonner l'hymne national portugais. D'ailleurs, l'hymne continue toujours à être l'hymne portugais. Bon, moi, j'ai choisi Grande Vila Morena, c'est mon choix personnel. Bon,
Je partage.
Bon, alors, Jorge Valadas, il y a des dates quand même qui ont marqué votre pré-adolescence et adolescence. Je commence par 1956, les chars soviétiques à Budapest. On voyait des images à la télé salazariste, parce qu'à l'époque, il y avait une seule chaîne en noir et blanc. On peut continuer comme ça, parce qu'il y a d'autres dates. 1961, la révolte dans une caserne à Beige. Le vote à l'ONU, justement, qui a, une fois de plus, le Portugal était condamné parce qu'il devrait donner l'indépendance à l'Angola. Alors, l'attaque au paquebot Santa Maria, Donc, il y a un certain nombre d'événements qui sont passés comme ça, c'est pas pour rien que vous les relatez dans le livre. Donc, ça vous a marqué. D'ailleurs, par rapport au paquebot Saint-Abéry, Eric Alvan et tout ça, j'étais, j'avais même des sympathies pour eux.
Ben, ça, c'est des événements de mon adolescence. Hein. Bon, l'histoire de 56, la révolte en Hongrie, non, c'était... Donc, j'avais 11 ans, donc je n'étais pas encore en adolescence.
Oui, mais vous avez vu les images.
Je ne sais pas. Alors là, tu parlais de ça. Est-ce que la télé portugaise existait déjà à cette époque-là? J'ai pas le souvenir de ça. J'ai le souvenir, mon père était un lecteur très régulier de diario de notícias, qui était un des deux grands journaux, l'autre étant au siècle. Et je me souviens surtout des photos dans les journaux. Mmh. Je me souviens pas de la télé. D'ailleurs, nous avons eu la télé assez tard. On allait regarder la télé dans un café pendant des années et des années.
Beaucoup de monde.
Voilà, exactement. Mais donc... C'est des événements qui ont marqué ma vie, si tu veux. On revient un peu à la construction d'un livre de ce type. Je les regarde d'aujourd'hui, avec ce que je suis aujourd'hui. Donc forcément, là, il y a un peu de fiction, hein, parce que je peux pas vraiment... J'essaie de rétablir comment je les ai vécus à ce moment-là. Ça m'a marqué, ça c'est sûr. Il y a des éléments qui m'ont marqué. Comment je les ai analysés à l'époque, ça, je le fais avec l'aide de présent, si tu veux.
Alors, Georges Valadas, il y a quand même deux personnes que je pense que t'ont marqué. Et tu insistes dans le livre. D'abord, il y a le grand-père du collègue du lycée Antonio. Là, une ouverture énorme. Il avait une bibliothèque et quelque chose, quelqu'un qui était contre.
C'était un républicain, ce qu'on disait, on appelait à l'époque.
Voilà. Et après, il y a aussi Bernd Speer. Alors là,
un autre républicain.
C'est une citation, « Dire non quand c'est non ». C'est carré, hein, c'est fait. Donc, ces deux personnages-là, deux personnes âgées, on dirait que, de certaine façon, ils vous ont façonné, c'est-à-dire, ils vous ont reconforté dans le révolte qu'il y avait un petit peu à l'intérieur. Non.
Oui, ils m'ont aidé à mettre les morceaux du puzzle ensemble, si tu veux. Le grand-père Morel, qui était le grand-père de mon ami Antonio, que je fréquentais au lycée et qui me prêtait les Tintins, etc. Enfin, j'ai beaucoup lu de la BD à l'époque parce qu'il était très, très friand de ça et il me l'en passait. Bon, ce grand-père Morel, c'était vraiment le vieux républicain portugais. Bon, à l'époque, je le voyais comme un vieux monsieur. Bon, il avait peut-être sûrement plus jeune que je le suis aujourd'hui, mais il avait une grande bibliothèque et il était surtout très anticlérical, comme beaucoup de républicains portugais de l'époque. Et donc, il m'a aidé un peu à chercher dans ce sens qu'est-ce que c'est que la religion, quel est le rôle social de la religion, pourquoi il y a ce lien entre la religion et le régime au Portugal, etc. Mais c'était pas encore très clair dans ma tête, parce que mon père, comme je disais tout à l'heure, il aimait beaucoup Salazar, il était pas du tout dans le parti unique, parce qu'il considérait que c'était tous des corrompus, ce qui était vrai. Aujourd'hui, on parle de la corruption démocratique, mais on oublie que le salazarisme était un système hyper corrompu, et donc il fallait que je jongle avec tout ça. Mais c'est vrai que ce vieux monsieur m'a beaucoup aidé, et l'autre monsieur aussi, le grand-père Bench, lui c'était un personnage assez drôle. Il était musicien dans l'orchestre de la garde républicaine, mais il était aussi quelqu'un qui avait une présence et qui savait dire non et oui, comme tu as rappelé.
Mais Georges, ouais. On avance un petit peu, ouais. Parce que entre-temps, il y a le lycée, et après il y a l'école navale.
Ouais.
J'ai pas dit au début parce que tu as été déserteur de la marine. Bon, on va y arriver. Justement, alors cette école, l'école navale, bon, élève officier. N'est-ce pas?
Oui.
Avec tout ce que cela suppose. Mais oui. Attention, quand on arrive... Bon, déjà, le bizutage. Alors, c'était une fois que tu rentres là-dedans, petit à petit, t'as créé, où il y avait un groupe qui s'est formé un petit peu autour de toi. Déjà, pendant le biseautage, je ne sais, à moins que je...
Non, pas autour de moi. Il y avait un groupe.
Il y avait un petit groupe.
J'en faisais partie, voilà, mais je n'étais pas meneur de ce groupe.
Non, on s'en fout. D'ailleurs, le meneur, entre guillemets, après, il a subi quelque chose. Bon, il a été expulsé de,
c'est vrai,
de tout la à marine. Fait. On l'a envoyé dans la marine marchande. Bon, c'est une autre affaire. Non, mais justement, alors là, c'est très important parce que là, bon, on rentre quand même dans, c'est un régime militaire, qu'on voit ou pas. C'est la marine. La marine a toujours été, bon, considérée, bon, plus à l'aise. Bon, et surtout la marine, bon, c'est les bateaux, c'est la mer. Et ça, c'est quelque chose que toi, c'est très important. Parce que souvent, tu dis, bon, je lâche le truc, je pars. Et l'océan, c'est l'ouverture sur le monde. Mais justement, alors, ces années-là, à l'école navale d'Orfeit, donc l'autre côté de Lisbonne, ça a été une école de vie, c'est là que ta conscience politique, d'une certaine façon, tout au moins de la situation politique au Portugal et de la guerre coloniale, c'est là que tu as eu, disons, une prise de conscience, parce que j'ai oublié de parler aussi de la révolte en Angola en 1961. Donc, le fait d'être là, dit, bon, zut alors, je fais partie d'un organisme, ça sert à faire la guerre coloniale.
Oui, ça peut paraître paradoxal. Je suis rentré donc volontairement après le lycée dans cette école militaire pour des raisons bon que je vais pas développer ici, mais qui étaient assez communes à d'autres gens. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, c'était la petite classe moyenne, ils étaient plutôt endettés, etc. Bon, bref. Et donc je voulais m'échapper de ma famille. Et j'aimais beaucoup la mer, parce que j'ai eu une enfance très proche de la mer, je raconte dans le livre aussi, dans le sud du Portugal.
Avec
dans
l'île.
Dans les îles de Sotavento Algarvio, d'où mon père était originaire. Et donc, je rentre dans cette école militaire, un peu pour m'échapper, pour être un peu plus libre. Et évidemment, j'avais aucune idée. C'est un peu naïf ce que je dis là, mais c'est la réalité. Je m'étais pas posé la question de qu'est-ce que c'était une école militaire. Je souligne le militaire. Sauf que j'ai eu de la chance aussi pour l'époque, parce que dans cette école militaire, il y avait une atmosphère assez contestataire, finalement, c'était les années 60 déjà, d'une façon ou d'une autre, l'agitation qui existait dans les universités de Lisbonne avait un peu contaminé un certain nombre d'individus qui étaient dans cette école militaire. Et donc c'est là que j'ai un peu commencé à organiser mes idées politiques, parce que j'étais absolument en dehors d'aucune, j'ai jamais été dans une organisation politique au Portugal.
Ben, il y a eu des révoltes, mais je mets des révoltes entre guillemets, entre autres parce que vous étiez obligé de faire un exercice à l'île de San Vicente. Au Cap-Vert. Alors, impossible de faire un bon des manœuvres, bon, des trucs comme ça, et vous avez décidé, non, on bouge plus d'ici. Bon, conclusion, vous étiez là, vous aviez faim, soif, etc. On est venu vous chercher. Et à la fin, bon, la hiérarchie n'a pas bougé. Mais il y a quelque chose quand même, bon, parce que vous avez été élève officier dans le voilier Sagres. Mm-hmm. Il va raconter une histoire, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Portugais qui la connaissent, que c'est finalement, bon, on monte Sagres, bon, c'est un des emblèmes du Portugal, etc. Mais ça a été un navire nazi, ça.
Avant, ça a été acheté. J'ai découvert ça justement quand j'étais dans la marine, parce qu'il y avait un copain, celui qui justement s'est fait virer de l'école après, qui était très friand de chercher toutes ces choses-là, et il avait découvert que le navire école Sagres avait une histoire aussi. Il n'y a pas que les individus qui ont des histoires, les objets ont aussi une histoire, et cet objet navire, il avait une histoire, c'était un navire école de l'armée, de la marine nazie, national-socialiste, qui après la guerre a été vendu, je crois, si je me souviens bien, aux Brésiliens, qui l'ont revendu aux Portugais, et là, il a été transformé après dans le navire École Sagres. Alors bon, moi je joue avec ça parce qu'on rigolait entre nous en disant, mais il y a peut-être des fantômes, des nazis, dans les soutes de Sagres, etc. Mais bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout de ça. On parlait pas à l'époque, maintenant je sais pas.
Alors, Georges Valades, l'exil, donc déjà la désertion 1967, Et finalement, bon, il y a eu un problème énorme, bon, on va pas rentrer dans les détails, parce que vous aviez rédigé une lettre à votre commandant pour le décharger, c'est une décharge, en disant, bon, il est au courant de rien, voilà, je mets au courant que je vais déserter. Mais cette lettre-là a été dévoilée par votre mère, parce qu'elle a fouillé dans vos sacs, dans votre sac à dos, qui était préparé déjà pour partir, et elle a raconté à son père, bon. Et ça, c'est quelque chose où j'espère avoir le temps encore de revenir dessus, c'est que, et ça, vous n'avez pas été les seuls, hein, dans ce de la famille, le fait de déserter, d'être refractaire, ça a été vraiment un drame au sein des familles. Mais une chose est certaine, c'est que finalement, de la part de d'autres élèves officiers de la marine, bon, vous avez mis au courant un ou deux, et on vous a dit, bon, vas-y, fonce, parce que c'est ça que tu dois faire. Et je pense que votre passage, justement, en bateau à Guinée-Bissau, ça vous a dit, bon, ça ne va pas, il faut que je quitte. Donc, cette décision de déserter, parce que c'est désertion avec tout ce que cela implique, automatiquement, si vous étiez repris, c'était la prison militaire, hein, il n'y avait pas de...
Bien sûr.
Etc. Donc, ça a été difficile de prendre cette décision-là ou pas?
Oui, ça a été difficile, mais j'étais absolument convaincu depuis quelques années, depuis ce passage éclair qu'on avait fait en Guinée-Bissau, et j'étais décidé que je ne pouvais pas faire cette guerre. Et en plus, bon, je commençais à vraiment à pas supporter le quotidien du régime salazariste qui était très très lourd et qui me convenait pas du tout. Il y a aussi peut-être le fait, maintenant que tu me poses la question, je réfléchis un peu, je me dis que le fait que j'étais pas engagé politiquement de façon explicite m'a aussi facilité cette décision. Parce que les gens qui étaient engagés politiquement dans des organisations, et il y en avait dans le régime, il y en avait dans le système militaire, hein, parce que on l'a vu après au 25 avril, il y avait une organisation liée au Parti communiste, d'autres plus proches des maoïstes, etc., qui avait une présence dans les institutions militaires. Mais le fait que j'étais complètement dehors de ça, ça m'a vraiment incité, non, faut que je m'en aille. Bon, évidemment, c'était très difficile, mais c'est surtout, comme tu viens de dire, la rupture avec la famille, qui était quand même quelque chose de très important. Et tu partais, tu savais pas si tu allais revenir, quand, voilà. Etc.
Oui, parce que c'est l'exil. L'exil, tout à fait, à la fin, j'aimerais bien qu'on revienne à l'exil, s'exiler de l'exil. Bon, c'est-à-dire, parce qu'une fois qu'on part comme ça, on est exilé. On coupe avec tout. C'est-à-dire, on démarre une autre vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on démarre, mais on coupe des amarres, à propos de marins, n'est-ce pas, et tout ça. Alors, arrive à Paris. Bon, il y a un épisode que vous racontez, parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de sous. C'était rare, bon, il y avait des contacts, des copains, mais enfin, il fallait se débrouiller. Vous êtes allé taper au siège du PCF. Et bon, parce que vous avez besoin d'aide. Alors, la seule aide qu'ils vous ont apportée, mais ils n'ont pas été les seuls, les trotskistes, c'était pareil. J'ai marqué zéro, c'est-à-dire pas de soutien. Et chez le PCF, on dit, bon, allez voir nos amis du PCP. Alors, quand le PCP disait, il ne faut pas déserter, il faut infiltrer la guerre coloniale, j'ai dit, mais finalement, j'ai raison de pas être, d'avoir ma conscience politique et pas être affilié chez ces gens-là.
Bah, je pense que j'ai ressenti un sentiment d'injustice. Bon, j'étais déjà un peu critique du rôle et de la place du Parti communiste, sans pouvoir y mettre vraiment des mots. Je commençais à peine à avoir une construction politique plus élaborée, plus fondée sur des textes, sur des analyses, sur des... Mais quand je suis allé frapper à la porte du PCF, c'était aussi une naïveté de ma part, parce que bon, j'ai été peut-être courageux dans un certain nombre de décisions que j'ai prises, mais j'ai été aussi très naïf, et parce que aujourd'hui, évidemment, je l'aurais pas fait, et puis la situation n'est pas la même. Là. Mais à l'époque, je me dis, je suis quand même, j'ai besoin de l'aide. J'avais aucun lien avec, j'avais pas une structure organisationnelle qui me soutenait. J'avais très peu d'amis qui étaient surtout des Français que j'avais croisés, rencontrés dans d'autres circonstances, qui m'ont aidé quand même beaucoup. Mais je me suis dit, peut-être qu'ils peuvent m'aider. Et donc, j'ai été frappé chez eux. Et bon, là, c'était vraiment... Ils ont dû dire, mais c'est qui ce mec-là, ce gamin? Donc, ils ont voulu me vendre un billet pour aller à la fête de l'humanité, alors que j'avais pas d'argent pour manger. Donc, je me suis dit, non, là, ils pètent un câble, quoi. Ils comprennent rien, quoi. Donc, je dis, bon, non, c'est terminé.
Bon. Voilà. Chapeau.
Ah bon, chapeau, on tourne la page.
Alors, et nous, on va tourner des pages et des pages, parce que, bon, il y a mai 68... bon, vous dites, vous êtes allé même diffuser de la propagande dans les bidonvilles, sentir la peur. Il y a, bon, il y a pas ça parce que vous avez vécu mai 68, mais d'une façon alternative. Vous êtes allé là sur Bande, je dis, bon, j'ai rien à faire ici, etc., etc. Et on va directement au 25 avril 1974. Alors, à l'époque, vous travaillez sur un chantier à Clichy. Donc, vous étiez électricien.
Ouais.
Et avec deux autres Portugais, et vous décidez, bon, ça y est, on part. Et voilà, ce départ au Portugal, bon, il y avait de l'effervescence, tout ce qu'on veut, mais toujours est-il, quand vous êtes retourné à Lisbonne, donc début mai 1974, même dans la ville, parce que c'était plus la ville d'antan, c'était plus votre ville, comment dire, c'était, on dirait qu'on se sentait, de certaine façon, étranger dans la ville, non?
Ça, bon, on avait parlé hors antenne. Je l'ai pas senti à ce moment-là. Je le sens maintenant. Je l'ai senti après toutes les années de la normalisation après le 25 novembre. Mais au moment du 25 avril et les mois qui ont suivi, j'ai pas senti que c'était ma ville. J'ai senti que c'était ma ville mais différente parce qu'elle avait un temps de révolte sociale, un temps de subordination, un temps de contestation du monde que j'avais déjà vécu à mai 68. En fait, pour moi, ces années-là du post du 25 avril et du 25 avril ont été une continuation de mai 68. J'ai vécu un temps différent, mais la ville là, j'ai pas senti qu'elle était différente, mais elle permettait une vie différente.
Oui, mais ça n'empêche quand vous êtes allé chez vous, chez vos parents. Bon, toujours est-il que vous n'avez pas pu dormir dans votre chambre habituelle. Parce que votre père, il avait transformé ça comme un genre de musée de souvenirs, je ne sais pas quoi. Donc, vous êtes allé dormir dans la chambre d'amis. Et là, vous avez ressenti quelque chose que vous aviez déjà ressenti pendant votre adolescence, préadolescence et adolescence, la solitude.
Oui, bien sûr. Mais je sais pas. Je pense que la solitude, c'est une composante de la liberté. Si tu choisis la liberté, quand j'ai choisi de partir, de m'exiler, ben forcément, là, il y a une solitude avec. Donc, il faut toujours comprendre ça et l'accepter. Mais là, cet épisode que tu mentionnes est important parce que. En fait, il y avait un temps différent, il y avait une vie différente dans la ville, parce qu'elle était en révolte, mais la société n'avait pas profondément changé. Et ça, je l'ai senti en arrivant chez mes parents à nouveau. Et ça, ça m'a fait un choc, et ça m'a fait comprendre que peut-être je pourrais pas revenir.
Georges Valadez, une conclusion, c'est pas une conclusion, ça je vais te le demander à toi. S'exiler de l'exil. Bon, on pouvait passer une heure à débattre ce thème-là.
Ouais.
Mais c'est un petit peu la conclusion, je l'ai passé par la conclusion du livre, au moins. Bon, moi j'ai tiré entre autres cette conclusion-là. Parce que s'exiler de l'exil, ça suppose plein de choses.
Ben oui, c'est pas facile. Mais il faut renouer parce que, bon, c'est une formule que j'ai repris à quelqu'un qui a une formule plutôt d'une pensée, disons, plus psychanalytique. Si tu veux, Freud a un peu travaillé aussi sur cette question. Il s'était lui-même aussi exilé. Bon, je suis pas du tout un spécialiste de Freud ni de la psychanalyse, mais ça m'intéresse. Et en plus, comment dire? C'est-à-dire qu'on est toujours exilé de nous-mêmes. Quelque part dans l'existence, si on a vraiment une pensée sur quel est le sens de la vie et qu'est-ce qu'on fait dans ce monde complètement inhumain, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain dans un monde inhumain. Donc s'exiler de l'exil, c'est ça, c'est-à-dire tu romps avec une situation, mais tu ne règles pas la question du fait qu'on est toujours exilé de nous-mêmes, quoi, et de côté humain de nous-mêmes.
Bon, des questions, j'en avais encore plein, mais enfin, mais il faut lire le livre, hein, parce que bon, c'est impossible. Parce qu'il y a cette autre chose, il faut les lire pour comprendre un petit peu la suite logique dont on a parlé depuis environ une petite demi-heure. Donc, je rappelle, Itinéraire du refus, chez Chandaigne et Lim, collection Bruit de frontières. Il sera mis en vente le 21 mars, donc on avance tout ça. Il y a déjà une rencontre, c'est au mois de mars aussi, jeudi 27 mars à 20h, librairie Jonas, qui est au 14 rue de la Maison Blanche, Paris 13e, métro plus proche est Tolbiac. Et là, je vois là, ce sera ma dernière question. Là, c'est peut-être un public davantage français, etc. Donc, il y a plein de questions qui vont fuser là.
Je sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'un public français? Je pense que c'est un livre aussi qui peut toucher beaucoup de gens de la deuxième, troisième génération portugaise. Parce qu'il parle, bon, il ne parle pas que du Portugal, évidemment, c'est tout un parcours de vie, mais il parle d'un Portugal que les gens connaissent pas aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de gens ne connaissent pas. On connaît, surtout les gens des nouvelles générations connaissent le Portugal de européen, quoi, avec tout ce que ça implique de désastre et de marchandisation du monde et de modernisation du monde avec toutes les conséquences qui sont devant nous. Mais voilà, donc je pense que ça peut toucher des gens différents, je ne sais pas. Je ne l'ai pas écrit en pensant à ça.
Oui, je n'ai pas parlé des alouettes, des hélicoptères, je n'ai pas parlé des camions Berliet, etc., etc. Bon, parce que là, bon, merci M. Charles de Gaulle. Bon, tu vois, il y a plein de choses dont on peut encore parler, mais qu'on peut découvrir dans le livre. Jorge Valadas, muito obrigado.
C'est moi qui te remercie et j'étais très content de venir discuter avec toi. Merci beaucoup.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.